أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
La traduction de ces versets est comme suit, ô vous qui croyez, cherchez le secours de Dieu avec patience et avec la prière, assurément, Allah est avec ceux qui persévèrent patiemment. Et ne dites pas de ceux qui sont morts pour la cause de Dieu qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, seulement vous ne le percevez pas. Et certainement, nous vous éprouverons en vous affligeant un peu de crainte, de faim, de perte de biens, de vie et de récolte. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, qui, quand un malheur les frappe, disent « Assurément, nous appartenons à Allah et certainement, c'est à lui que nous retournerons. » Ce sont ceux-là qui reçoivent les bénédictions de leur Seigneur et aussi la miséricorde, et ce sont ceux-là qui sont bien guidés. Quelques jours auparavant, en Indonésie, les ennemis de la communauté Ahmadiyya ont fait preuve d'une grande barbarie, d'une grande sauvagerie et ont tué 3 Ahmadis. Cet événement a profondément attristé tous les Ahmadis. Mais comme dans le passé, la communauté Ahmadiyya, suivant les commandements de Dieu. Et tous les Ahmadis individuellement, en tant que croyants, ont fait preuve de patience et de persévérance. Et les membres de la communauté Ahmadiyya sont prêts à subir des pertes de vie, de biens pour la cause de Dieu et subissent cela pour le plaisir de Dieu. Et ils disent « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Assurément, nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Voilà le signe des croyants selon Dieu. Aujourd'hui, seuls les Ahmadis comprennent ces versets que je viens de vous présenter. L'ennemi nous persécute constamment et constamment nous répétons ces versets. Les sacrifices de vie ou de bien consentis par des Ahmadis de l'Indonésie ou par les Ahmadis du Pakistan ou par les Ahmadis des autres pays, tout cela est le résultat des excellences d'un croyant insufflé par le Messie premier l'Islam, le fidèle serviteur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces sentiments sont présents dans chaque Ahmadi, partout, quelle que soit son origine. Ainsi, lorsqu'on subit des pertes pour la cause de Dieu, lorsqu'on nous demande des sacrifices pour la cause de Dieu, en tant qu'Ahmadi, nous donnons cette réponse qui a été donnée plus haut. Et ce fut la même réponse qui a été donnée par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a insufflé ce même esprit en ses compagnons qui ont été des exemples pratiques dans ce domaine. Tous les suivants de tous les prophètes ont été tourmentés par leurs ennemis. À toute époque, les pharaons ont demandé aux croyants de choisir entre la mort ou de se détourner de leur foi. Face à ce choix, les croyants ont tout le temps fait preuve de fermeté dans leur foi. À l'époque du prophète Moïse, lorsque les magiciens ont vu que Moïse alayhissalam a présenté une autre magie, une magie qui n'est pas de cette terre, mais une magie qui est soutenue par Dieu, lorsqu'ils ont constaté que leurs plans de ce bas monde ne pourront pas contrarier le plan de Dieu, lorsqu'ils ont compris la vérité concernant le message apporté par Moïse, lorsqu'ils ont compris que ce message vient de la part de Dieu, ils y ont cru. Et cela a profondément blessé Pharaon. Il était rouge de colère. Il a déclaré « Je vais vous infliger une punition exemplaire en raison de votre comportement. » Ceux qui ont cru ont répondu à Pharaon que nous ne pouvons te préférer au signe de Dieu. Fardui ma antaqad. Inna ma taqdui. Hadhi al-hayat al-dunya. Décrète donc ce que tu veux décréter. Tu peux seulement décréter concernant la vie de ce monde.
Dunyavi zindagi ko hi khatam kar sakta.
Après avoir cru, nous allons nous sacrifier pour la cause de Dieu. Et ce que nous recevrons en retour dépassera ce que tu ne peux imaginer, toi, en tant que roi. Ainsi donc, si les suivants du prophète Moïse alayhissalam peuvent faire preuve d'une telle fermeté dans leur foi, nous qui sommes les suivants du meilleur des prophètes et du Khatamul Anbiya, lui qui a reçu la charia parfaite et en suivant laquelle l'on atteint les sommités de la foi, nous qui avons accepter le Messie promis à l'islam suite aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis à l'islam qui a porté la foi des Pléiades et qui a renforcé notre foi par des signes. Allons-nous, en tant qu'Ahmadi, avoir peur des pharaons d'aujourd'hui ou de leurs comparses, et allons-nous nous détourner de notre foi? Alors que Dieu nous a donné cette bonne nouvelle, il nous donne la bonne nouvelle de la vie éternelle lorsque nous allons présenter notre vie. Quant à ceux qui ont atteint ce niveau dans la foi, les menaces ne pourront pas les détourner de leur objectif. La barbarie la plus extrême et les exactions les plus terribles ne pourront pas les faire chanceler dans leur foi. Ô ennemis de l'Ahmadiyya, là où vous vous trouvez, vous pouvez commettre autant d'exactions que vous le voulez contre les Ahmadis. Nous n'allons pas nous détourner de notre foi. Tu vas entendre la même chose de la bouche de tous les Ahmadis. Faqdima antaqad. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras pas nous détourner de notre foi. Les Ahmadis de l'Indonésie ont donné la même réponse aux ennemis. De temps en temps, ils recevaient des menaces, mais étant emplis de foi, ils ne se sont pas souciés de ces menaces. Là où s'est passé cet incident, la Jamaat est toute petite. Cette Jamaat est composée de 30 personnes parmi lesquelles il y a des femmes et des enfants. Cela concerne uniquement cette famille. Mais les membres de cette Jamaat n'étaient pas prêts à abandonner l'Ahmadiyya et suivre les mollahs suite à ces menaces. La demande principale des mollahs ou de leurs comparses était qu'ils devaient faire partir le mollim de cette région, alors que celui-ci était de la région. Celui-ci était un habitant de ce village. En tout cas, lorsque l'hostilité a pris des proportions graves, les Jamaat des régions avoisinantes ont envoyé 20 khudam pour être de faction dans ce centre, afin que l'ennemi ne s'empare pas de ce centre. Généralement, ils sont soutenus par la police et depuis le début, lorsque nous abandonnons une mission ou un centre ou une mosquée suite aux directives de l'État, la police scelle le bâtiment ou les autres s'en emparent. Ou si les autres s'en emparent, la police ne les fait pas sortir. On a eu cette expérience de le passé. C'est pour cette raison qu'on a pris la décision de ne pas abandonner ces centres, quel que soit la gravité de la situation. Ces Ahmadis étaient donc dans ce centre lorsque ces barbares les ont attaqués. Ils ont pénétré dans le centre et ils ont blessé les Ahmadis à coups de bâton, de couteau et de machette et les ont fait sortir à l'extérieur alors que la police était à l'extérieur et regardait sans rien faire. Trois Ahmadis sont tombés à martyr, cinq ont été blessés. Vous en avez entendu les nouvelles. Mais par la grâce de Dieu, la foi à des membres de la communauté est encore plus ferme. L'ennemi a commis des actes d'une sauvagerie inouïe. Ils ont laissé les exemples des koufars de l'époque de l'ignorance. Malheureusement, ces musulmans barbares ont, comme de le passé, commis cet acte au nom de ce Rahmatul Alamin, de cette miséricorde pour l'humanité, de ce grand prophète qui a fixé même des principes pour les batailles. Lui qui avait donné des directives de ne pas défigurer les cadavres des soldats ennemis. Cela était une pratique courante à l'époque parmi les Arabes. Il a déclaré que vous ne devez pas profaner les cadavres de l'ennemi. La loi de la religion va à l'encontre de cela, mais même les valeurs humaines de base vont à l'encontre de ces pratiques. Mais ces barbares qui se sont attaqués aux Ahmadis ont profané ces cadavres à tel point qu'on ne les reconnaissait plus. Dans un premier rapport, l'on avait présenté d'autres noms. Et ce n'est qu'après qu'on a reconnu l'identité réelle des décédés. Leurs proches les ont reconnus grâce à des signes particuliers. Ainsi, ces personnes ont dépassé les koufars dans leur profanation de ces cadavres. Nous sommes certainement très tristes face à ces profanations, face au fait qu'ils ont été tués. Nous sommes certainement très tristes, nous sommes en plein désarroi, mais le plus grand crime commis par ces personnes, comme je l'ai dit, est qu'ils ont commis ces actes barbares au nom de notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fut envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Ce fut un acte si barbare que les journaux nationaux et internationaux qui ont présenté ces faits ont refusé de montrer les images vidéo en disant que nous ne pouvons montrer des images aussi inhumaines. La chaîne Al Jazeera, qui est toujours rapide à montrer de telles nouvelles, a refusé de présenter ces images. Al Jazeera a rapporté dans son reportage que c'était une scène atroce. La police était présente. Une foule s'est attaquée à la maison des Ahmadis. Ensuite, ils ont commencé à les tuer. Ils ont mis à nu trois personnes et les ont frappées à coups de bâtons, de pierres et de couteaux. Ils ont dit dans le reportage que nous ne pouvons montrer ces images. La Commission des droits de l'homme de l'Asie a déclaré que cette action infâme contre les Ahmadis est considérée légitime par les gens locaux suite aux décisions prises par les oulémas. Voilà donc l'état des oulémas d'aujourd'hui qui sont en train de de répéter les actes barbares de l'époque de l'ignorance, de l'époque de la Jahiliya, eux qui sont en train d'encourager les musulmans de commettre ces actions au nom de l'islam. Le journal The Economist a déclaré que tout cela n'est pas le résultat d'une dispute entre les musulmans et les chrétiens. Ce sont des soi-disant musulmans qui ont traité ainsi les autres musulmans. Ils ont déclaré dans ce reportage que si vous avez le courage de regarder ces images vidéo, vous allez constater que cette barbarie, cette sauvagerie n'a jamais été vue dans le passé. C'est une barbarie qui est loin de la culture et de la civilisation d'aujourd'hui. Il a déclaré que ces images ont secoué tous ceux qui les ont vus. Beaucoup d'Ahmadis ont regardé ces images vidéo et tous m'ont dit que nous n'avons pas pu regarder cela plus d'une minute. Une dame m'a écrit en disant que je me suis caché pour regarder ces vidéos et j'ai pleuré beaucoup et mes enfants étaient très troublés. Il y a un Ahmadi algérien qui est venu me rencontrer. Lorsqu'il a mentionné ces faits, il a commencé à pleurer à chaudes larmes. Personne ne peut endurer de telles images. Mais ces personnes ont endurci le cœur de leurs enfants à tel point qu'ils ont regardé ces images en applaudissant. Le journal New York Times, Financial Times ont présenté ces faits. Il y a le journal Jakarta Post qui a présenté un récit à ce sujet. Un journaliste a écrit à ce sujet que, quelles que soient les raisons récentes des attaques contre la communauté Ahmadiyya, cela démontre qu'on n'a plus de sentiments civilisés concernant les minorités. Alors que les Ahmadis et les autres groupes religieux ont fait autant d'efforts pour la construction de l'Indonésie. Il écrit que cet incident malheureux ne pourra être effacé de l'histoire de l'Indonésie. Ceux qui disent que les enseignements de la Jamaat Ahmadiyya sont non islamiques et qu'ils n'ont pas le droit de vivre se sont égarés ou ont été égarés. Il écrit que ce sont les érudits Ahmadis qui ont offert à l'Indonésie les pensées progressistes du XXe siècle. Parmi nos leaders, il y a le président Sukarno qui a étudié le Saint-Coran et sa traduction de la Jamaat Ahmadiyya. C'est ainsi qu'il a progressé dans la connaissance du Saint-Coran. Il déclare que nous sommes reconnaissants envers cette minorité. On ne peut effacer les services rendus par la Jamaat Ahmadiyya à ce pays. Voilà donc le résumé de cet article qui a été écrit par un professeur de l'université. En tout cas, tous ces journaux, Jakarta Post et Jakarta Globe, ont publié des articles à ce sujet et ils ont eu le courage de condamner fermement ces actions. Et ils ont attiré l'attention de l'État. En tout cas, les médias et les intellectuels de là-bas ont le courage de se soulever contre ces exactions. Et ainsi, on peut avoir l'espoir que le peuple prendra le droit chemin. Si seulement les intellectuels du Pakistan pouvaient avoir le même courage, si les médias pakistanais pouvaient avoir le même courage. L'hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya en Indonésie n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ainsi que se sont comportés les tyrans contre les communautés divines. La Jamaat Ahmadiyya a subi cette hostilité surtout dans les pays musulmans. Et cette hostilité existe contre la Jamaat Ahmadiyya en Indonésie depuis le début. Les mollahs sont toujours venus entraver la voie de la Jamaat Ahmadiyya et ils se sont toujours opposés contre la Jamaat Ahmadiyya. Les mollahs, quelle que soit leur origine, ne sont pas prêts à accepter la vérité, car ils cherchent leurs intérêts. Ils pensent que s'ils acceptent la vérité, ils vont perdre leur gagne-pain. Ils vont perdre toute importance. Et la vérité concernant leur connaissance va monter à la surface. Je veux présenter des faits historiques concernant la Jamaat Ahmadiyya. Et je veux aussi évoquer ses martyrs et ses exactions. La renaissance de l'islam et la diffusion du message de l'Ahmadiyya s'est passée d'une façon extraordinaire en Indonésie. De ce pays, quatre jeunes sont partis à Qadian et ont eu l'occasion d'embrasser l'Ahmadiyya. Aucun missionnaire n'est parti en Indonésie. Quatre personnes sont parties de l'Indonésie et sont arrivés à Qadian. Ils n'avaient pas l'intention d'embrasser l'Ahmadiyya, mais ils sont arrivés là-bas par hasard. En 1923, quatre jeunes de Sumatra, Abu Bakr Ayoub Saheb, Molvi Ahmad Nuruddin Saheb, Molvi Zainuddin Dahlan Saheb et Haji Mahmoud Saheb, ont quitté Sumatra pour l'Inde pour leurs études religieuses. Et par le décret de Dieu, ils sont passés par Calcutta, par Lucknow, par Lahore et ensuite ils sont arrivés à Qadian. En août 1923, ils sont arrivés à Qadian et se sont présentés au deuxième calife et ils lui ont demandé de les aider pour leur éducation. Le deuxième calife a accepté leur demande et a pris des mesures pour leur éducation. Et au cours de leurs études, ils ont compris la vérité concernant l'Ahmadiyya et ont accepté l'Ahmadiyya. Ces quatre jeunes Indonésiens ont embrassé l'Ahmadiyya à Qadian et ensuite ils ont commencé à prêcher ce message de Qadian en écrivant à leurs proches. Et ainsi, ils ont commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya en Indonésie. Lorsque le deuxième calife est retourné de son voyage en Europe, le 29 novembre 1924, ces quatre jeunes Indonésiens étaient présents dans le dîner d'accueil organisé pour le deuxième calife. Ils ont demandé au deuxième calife de faire quelque chose pour leur pays et pour les îles de l'Est. Le deuxième calife a déclaré que moi-même, je vais partir là-bas où je vais envoyer mon représentant. Ainsi, le deuxième calife a choisi Molvi Rahmat Ali Saheb et l'a envoyé en Indonésie. Il a voyagé par bateau et il est arrivé à Sumatra en septembre 1925. Et il a élu domicile dans un petit village qui s'appelle Tapatuan. La culture indonésienne est différente, la langue est différente et il était un étranger, il ne connaissait personne. Mais en dépit de toutes ces difficultés, Molvi Rahmat Ali Saheb a fait preuve de persévérance et de patience. Ces difficultés n'ont pas pu l'arrêter. Il a appris la langue de là-bas, il a commencé à prêcher son message. Ensuite, il y a eu des débats avec les ulémas et le Molvi Rahmat Ali Saheb a été soutenu par Dieu. Et après quelques mois, par la grâce de Dieu, il a pu établir la première Jamaat en Indonésie. C'était une Jamaat composée de 8 personnes et après cela, davantage de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. En tout cas, il y a beaucoup de détails à ce sujet. Au début, le Maulvi Rahmat Ali Saheb a fait face à de grandes difficultés. Il y avait des difficultés concernant la langue. Il y avait aussi de l'hostilité à son encontre. La culture était différente. En tout cas, il a pu faire face à ces difficultés et les ulémas ont émis des fatwas en disant qu'on ne doit pas lire les livres et les articles des Ahmadis, on ne doit pas écouter leurs discours. Lorsque le nombre d'Ahmadis a commencé à grandir, les gens de là-bas ont commencé à boycotter les Ahmadis. Et les journaux ne voulaient pas publier des articles concernant les Ahmadis. L'hostilité était telle que des fois il y avait 3000 personnes devant la maison de Maulvi Rahmat Ali Saheb et il lançait des slogans et il l'insultait. Durant ces jours, Haji Mahmoud Saheb, qui était un Indonésien, est retourné de Qadian et les mollahs l'ont contraint à faire une déclaration en disant qu'il abandonnait l'Ahmadiyya. Et il y a eu beaucoup de bruit à ce sujet et il y a eu davantage d'hostilité contre le Maulvi Rahmat Ali. En tout cas, Haji Saheb a pu se protéger de ces complots. Et les complots des ulémas sont tombés à l'eau. Et ils ont décidé de faire expulser le Maulvi Rahmat Ali Saheb. Ils se sont présentés aux représentants de l'État, mais ces derniers ont déclaré que cela concerne la religion et nous n'allons pas nous immiscer dans ces affaires religieuses. En tout cas, cela a perduré et en décembre 1927, il y a eu un débat entre les Ahmadis et les ulémas non-Ahmadis à Padang. Les représentants de l'État et d'autres chers étaient présents là-bas et les Ahmadis ont eu le dessus tel qu'il y a été décrété par Dieu. Et les ennemis de l'Ahmadiyya ont subi un échec cuisant. Et cela a ouvert les portes pour la prédication de ce message de l'Ahmadiyya et on a établi la troisième Jamaat d'Indonésie dans la région de Doko. En 1929, le Maulvi Rahmat Ali Saheb est retourné à Qadian. En 1930, le deuxième calife l'a renvoyé là-bas de nouveau, c'est-à-dire il l'a renvoyé à Sumatra. Maulvi Rahmat Ali a demandé au deuxième calife d'envoyer un autre missionnaire pour l'aider. Le deuxième calife a accepté sa demande et a envoyé Maulvi Muhammad Sadiq Saheb, qui l'a accompagné en Indonésie. Et ces deux personnes sont parties de nouveau pour l'Indonésie. L'Ahmadiyya a commencé à progresser petit à petit et l'hostilité aussi a commencé à grandir. Les trois premières jamaats ont commencé à faire face à cette hostilité. Le sultan de la région de Tapatuan a émis des directives concernant les Ahmadis. On a empêché les Ahmadis de prier. On les a empêchés de se réunir pour la prière de Jumma. Et on les a empêchés de prêcher leur message. La Jamaat de Luhusukun a été la cible du sultan de cette région. Et ils ont contraint les Ahmadis de dire que le Messie premier al-Islam est un menteur et un Dajjal, na'udzubillah. Sinon, ils seront expulsés de cette région. Un Ahmadi de la région a été démis de ses fonctions. Il y a un autre Ahmadi, Abdul Jalil, et son frère qui ont été expulsés de leur village en raison de leur appartenance à la communauté Ahmadiyya. En tout cas, le Maulvi Abu Bakr Ayub Saheb est retourné en Indonésie Il a commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya dans la région de Kisaran quand on l'a empêché. En tout cas, une nuit, un officier de police accompagné de policiers sont venus l'arrêter sous l'ordre du sultan. L'officier de police a noté les noms des personnes présentes et lui ont demandé, lui et ses compagnons, de se présenter au chef de district le lendemain. Lorsque le Maulvi Saheb et ses compagnons se sont présentés à l'officier, on a commencé à les interroger. Le chef de district voulait l'arrêter, mais par la grâce de Dieu, le Maulvi Saheb a pu répondre avec sagesse. Et petit à petit, il a gagné le cœur du chef de district. Il a commencé à être intéressé davantage par l'Ahmadiyya et a posé des questions concernant l'Ahmadiyya pendant une demi-heure. Et après, il a libéré le Maulvi Saheb et ses compagnons avec grand respect. Comme je l'ai mentionné, il y a un Indonésien qui a présenté les services de la communauté Ahmadiyya en faveur de l'Indonésie et de son indépendance. J'ai déjà mentionné l'établissement de la Jamaat là-bas et quelles furent les difficultés au tout début. De tout temps, on s'est opposé à la Jamaat là-bas. Mais quels furent les services rendus par la communauté Ahmadiyya? Le deuxième calife a encouragé les musulmans du sous-continent indien de faire des efforts pour l'indépendance de l'Indonésie. Il a encouragé les autres musulmans de soutenir les musulmans indonésiens pour l'indépendance de l'Indonésie. Il a fait cet appel dans un sermon du 16 août 1946. Après cet appel du deuxième calife, tous les Ahmadis du monde entier ont fait des efforts pour l'indépendance de l'Indonésie. Et en fin de compte, l'Indonésie a eu son indépendance. À la fin du règne des Japonais, le docteur Sukarno a annoncé l'indépendance de l'Indonésie le 17 août 1945 et il y a eu une guerre entre eux et les Hollandais. Les missionnaires Ahmadis et les autres Ahmadis du monde ont participé donc dans cette campagne pour l'indépendance de l'Indonésie et les missionnaires Ahmadis ont soutenu ceux qui voulaient établir la République indonésienne. Sayed Shah a rencontré le docteur Sukarno et il lui a dit qu'il veut participer dans l'indépendance de l'Indonésie. Il était le missionnaire de la communauté Ahmadiyya et le président Sukarno lui a confié la tâche de diffuser des informations en langue ourdou à la radio. Il y avait Maulvi Abdul Wahid Sahib et Malik Aziz Sahib qui ont travaillé dans ce domaine, c'est-à-dire dans la diffusion de ces nouvelles à la radio. Sayed Shah a fait beaucoup d'efforts à ce sujet. Et un ancien ministre de l'Intérieur a déclaré que nous considérons Sayed Shah comme un de nos concitoyens. Concernant les services rendus par Sayed Shah Saheb, le 3 août 1957, le secrétaire général du ministère de l'Information de l'Indonésie écrivit une lettre de remerciement à Sayed Shah pour les services qu'il a rendus pour l'indépendance de l'Indonésie. Il y est écrit que nous reconnaissons les services rendus par M. Sayed Shah, chef de la communauté musulmane Ahmadiyya, résident à Jakarta, en faveur du peuple indonésien et du gouvernement de la République indonésienne. En tant que membre du département de la diffusion dans le ministère de l'information, M. Syed Shah a usé de toutes ses capacités intellectuelles et aptitudes afin de convaincre les forces vives internationales que les efforts de la République indonésienne sont légitimes. Monsieur Syed Shah nous a soutenus lorsque les Hollandais ont lancé leur attaque sur Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Monsieur Syed Shah était un membre du comité pour l'établissement du gouvernement de la République indonésienne à Jakarta après le départ des troupes hollandaises suite à la décision des Nations Unies. Syed Shah était aussi un membre du comité qui avait pour tâche d'accueillir le président Sukarno à Jakarta après le départ des Hollandais. Ensuite, il dit que Syed Shah était le seul étranger dans la délégation du président Sukarno après que celui-ci a pris les rênes du pouvoir du gouvernement hollandais. Après le transfert du gouvernement à Jakarta, M. Syed Shah a travaillé dans le département de la diffusion de la radio de la République indonésienne et a préparé des émissions en langue ourdou. Il a aussi rendu ses services en tant que responsable de la mission islamique Ahmadiyya. Le premier président de l'Indonésie, qui a été mentionné auparavant et qui a étudié le Saint-Coran des missionnaires Ahmadi, a évoqué cela dans son ouvrage qui s'appelle Dibawa Bendera Revolusi. Il déclare à ce sujet que c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec certains points de vue de la communauté Ahmadiyya, je rejette même certains points de vue, mais je suis reconnaissant pour ses enseignements qui sont en accord avec l'intelligence et la logique. Voilà donc les services rendus par la communauté Ahmadiyya. Cela ne s'est pas limité à des efforts verbaux ou à un soutien verbal. En 1946, certains Ahmadis ont sacrifié leur vie et sont tombés en martyr pour ce pays, parmi lesquels il y avait Radin Mohiuddin Saheb, le président de la Jamaat. Il était membre d'un comité qui devait préparer les célébrations de l'indépendance. Il a été kidnappé par les troupes hollandaises et il a été tué après. Donc, le sang Ahmadi a coulé pour l'indépendance de ce pays. Voilà donc quelques faits concernant les services rendus par la communauté Ahmadiyya pour ce pays et ses sacrifices. Mais les oulémas et les extrémistes n'ont pas cessé leur hostilité pour autant. Il y a certains Ahmadis qui sont tombés en martyr auparavant et je vais en faire mention aujourd'hui. En 1947, les six Ahmadis suivants sont tombés en martyr. Il y a M. Jayed Saheb, M. Sura Saheb, Mokaram Sayri Saheb, Haji Hassan Saheb, Radin Sali Saheb, Mokaram Dehlan Saheb. Ces six Ahmadis étaient de la région de Singaparna et ils sont tombés là-bas en martyr. Il y a un certain groupe Darul Islam qui s'est attaqué à eux. Ils les ont frappés à coups de bâton et de pierre et ils les ont tués devant leurs proches et ils les ont fait sortir de leur maison. Ce groupe Darul Islam les avait contraints de rejeter l'Ahmadiyya, mais ils ont fait preuve d'une grande fermeté. Donc c'est ainsi qu'on a toujours traité les Ahmadis là-bas. Deux ans après, en 1949, ces Ahmadis sont tombés en martyrs. Il y a Mukarram Sanusi Saheb, Mukarram Omo Saheb, Mukarram Tahyan Saheb, Mukarram Shirumi Saheb, Mukarram Soma Saheb, Mukarram Jumli Saheb, Mukarram Sarman Saheb, Mukarram Usun Saheb, Mukarrama Idot Saheba et Mukarrama Unya Saheba. Deux dames sont aussi tombées en martyr. Ces Ahmadis étaient de la région de Singapana. Ils ont été attaqués par ces personnes qui appartiennent à ce groupe Darul Islam. Ils ont été frappés à coups de bâton et de pierre. On les a forcés de renoncer à l'Ahmadiyya, mais ils ont refusé et ils ont fait preuve de persévérance. Ensuite, il y a eu une autre tempête d'opposition qui a débuté en 2001. Mukarram Rapuk Hassan Saheb, il est tombé en martyr le 22 juin 2001. Il avait 55 ans et environ 100 ennemis de la communauté Ahmadiyya ont attaqué la Jamaat de l'Aloa. Il voulait saccager la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya. Papouk Saheb et d'autres Ahmadis se sont mis devant leur route. Ils ont été grièvement blessés. Papouk Saheb est tombé sans connaissance. Il a été transporté à l'hôpital, mais il a perdu beaucoup de sang et il est tombé en martyr. Il avait 55 ans. En 2002, l'État a commencé à soutenir ces barbares. Il y a eu plusieurs actes. Par exemple, à Mansiror, les amis de la communauté Ahmadiyya ont caillassé les mosquées de la Jamaat Ahmadiyya et 42 maisons Ahmadis. Et le gouvernement a donné l'ordre que les Ahmadis n'ont pas le droit d'utiliser leurs mosquées. Le 15 juillet 2005, on s'est attaqué à la mosquée centrale de la communauté Ahmadiyya. Des centaines de personnes se sont attaquées à ces bâtiments. Ils ont essayé de saccager les bâtiments de la communauté. La police n'a rien fait et on a incendié plusieurs bâtiments. La police a scellé plusieurs bâtiments et autres bureaux. Le 19 septembre 2005, 500 ennemis de la communauté Ahmadiyya se sont attaqués à 5 jamaats d'une région. Ils ont saccagé plusieurs mosquées, ils ont saccagé aussi les bâtiments de la communauté et ils ont volé les biens de la communauté et ils ont incendié ces biens. 76 maisons ont été endommagées. Ils ont incendié certaines maisons, ils ont volé les biens des Ahmadis. Et dans certaines régions, ils ont incendié aussi les madrasas de la communauté Ahmadiyya. Et ils ont aussi incendié les voitures et les motocyclettes des Ahmadis. Le 19 octobre 2005, 100 personnes se sont attaquées à la Jamaat d'une région. Deux Ahmadis ont été blessés. Avant cela, ces Ahmadis habitaient à Pankor et à Selang, où ils ont été attaqués en 2002. On les avait chassés de leur maison, on avait brûlé la mosquée et ainsi que leur maison. Ils se sont émigrés à Ketapang, mais en octobre 2005, ils ont été de nouveau attaqués. Mais ils ont fait preuve de fermeté dans leur foi. En février 2006, on s'est attaqué de nouveau à la Jamaat de Ketapang. 23 maisons ont été saccagées, 6 maisons ont été incendiées. On a volé les biens des Ahmadis, on a volé aussi leurs animaux et 129 Ahmadis ont dû quitter cette région et étaient sans demeure. Le 10 novembre 2007, les étudiants des madrasas se sont attaqués à des mosquées et 126 Ahmadis ont dû quitter cette région. En 2007, on s'est attaqué à la mosquée de Singaparana. On s'est attaqué la troisième fois à cette mosquée. On a saccagé les meubles, la mosquée, le toit de la mosquée. Et le 18 décembre 2007, on s'est attaqué à Mansellor. Il y avait 500 personnes qui appartenaient à la Defense Front. Ils ont détruit deux mosquées de la communauté Ahmadiyya. Ils ont saccagé les biens de la communauté. Et ils ont brûlé aussi 12 copies du Saint-Coran. La police a scellé 9 mosquées. Ils ont saccagé des maisons des Ahmadis et 3 Ahmadis ont été blessés. C'est pour cette raison que certains Ahmadis ont dû quitter ces régions. Voilà donc la situation des Ahmadis en Indonésie, mais par la grâce de Dieu, ils sont fermes dans leur foi. Et ils sont en train de faire preuve de patience face à ces méfaits. Je vais maintenant évoquer ces 3 personnes qui sont tombées à martyr. Cela n'est qu'une continuation de ce qui a débuté auparavant. Mais cette fois-ci, la presse a tout présenté clairement et la presse internationale aussi en a fait mention. Je vais donc mentionner ces 3 martyrs. Le premier est Tobakus Chandra Mubarak. Il était Ahmadi de naissance, il avait 34 ans. Il habitait au centre de la communauté. Il a laissé son épouse qui est enceinte de 5 mois. Ils allaient avoir leur premier enfant après 8 ans de mariage. Il voulait dédier son enfant dans le plan Waqfe Now. Inch'Allah, cet enfant va faire partie de ce plan. Monsieur Chandra était responsable des terres agricoles de la communauté. Il était très sincère, il était très actif. Il payait régulièrement ses Chandra. Tous les membres de sa famille sont des Ahmadis sincères. La veille de cet incident, son épouse lui a dit de ne pas partir dans la région de Sikisik, car elle est enceinte de 5 mois et qu'il doit s'occuper d'elle, qu'il devait choisir entre elle et la Jamaat. Mais il a répondu qu'il préfère servir la communauté. Il devait accompagner les Khoudam qui seraient de faction là-bas. Il allait servir comme chauffeur. Et c'est lors de sa présence que cet incident s'est passé. Il était régulier dans ses prières et il encourageait son épouse à prier aux heures prescrites. Il était très brave. Tobakus Chandra Mubarak Saheb était à l'intérieur du centre de la communauté. Il était devant les autres dames. On lui a attaqué à coups de couteau. On l'a frappé et ils lui ont pendu et l'ont frappé. Ensuite, ils l'ont frappé son corps à coups de bâton et de pierre et ils ont défiguré son visage. Ce n'est que son frère qui a pu le reconnaître grâce à quelques signes. Et il y a ensuite Mukarram Ahmad Warsono Saheb, qui était du nord de Jakarta. Il avait 38 ans. Il avait prêté allégeance en 2002. À part son épouse, il a laissé 4 enfants. Il a connu l'Ahmadiyya en 2000 lorsque le 4e calife a visité l'Indonésie. C'est un Ahmadi qui lui a présenté quelques ouvrages de la communauté. Il était intéressé par l'Ahmadiyya et après 2 ans de recherche, il a décidé de se joindre à la communauté. Son épouse aussi a embrassé l'Ahmadiyya. Avant cela, il n'était pas respectueux envers ses parents. Mais après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il respectait ses parents car il avait changé. Il respectait beaucoup ses parents et les traitait avec aménité. Il a progressé dans sa spiritualité et il disait que lorsque je prêche le message de Dieu, je sens le soutien de Dieu en ma faveur. Un jour, il avait besoin d'argent, il devait payer son loyer. Et il avait aussi d'autres besoins. Il a prié beaucoup. Et après quelque temps, quelqu'un est venu, lui a confié un travail et lui a payé son salaire. Et ainsi, il a pu subvenir à ses besoins. Il voulait servir les autres. Il avait vu en rêve le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième calife. Lui-même, il a prêché le message de l'Ahmadiyya. Beaucoup de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. Il était très brave. Il est venu après, mais il a dépassé beaucoup de personnes. L'attaque s'est passée de la même manière. Il était à l'intérieur du centre. On l'a frappé à coups de bâton, de machette et de couteau. On a fait sortir son cadavre et les ennemis de l'Ahmadiyya l'ont frappé devant la police et devant les autres. La police n'a rien fait. C'est un autre khadim qui a pu reconnaître son cadavre car il y avait des méprises concernant son identité. C'est après beaucoup d'efforts qu'on a pu reconnaître M. Warsono. Ensuite, il y a Roni Pasarani. Il avait 35 ans et il s'était joint à la communauté Ahmadiyya le 11 janvier 2008. Il était du nord de Jakarta. Il a laissé son épouse et deux filles de 5 et 6 ans. Avant d'avoir embrassé l'Ahmadiyya, il était un brigand et il jouait au jeu du hasard. Il a accepté l'Ahmadiyya grâce à M. Warsono. Il avait vu dans un rêve qu'il y avait un saint qui est venu le rencontrer à la maison. Il portait un turban. Un jour, il est parti voir M. Warsono et il a vu sur son mur la photo du Messie promis. Et il a dit que voilà la personne que j'avais vue dans mon rêve. Ainsi, il s'est rapproché de la Jamaat Ahmadiyya. Il a lu plusieurs ouvrages. Et en 2008, M. Roni a embrassé l'Ahmadiyya. Il s'est transformé complètement. Et son épouse était étonnée de voir ce changement. Donc Dieu a dû aimer une action de sa part. C'est pour cette raison qu'il lui a accordé ce grand statut. Il a pu embrasser l'Ahmadiyya, il a abandonné ses péchés et il a eu le statut d'un martyr. Il était régulier dans ses prières tahajjud et il lisait les ouvrages de la communauté. Il était très brave. Au cours de ces 2 ans, il a prêché le message de l'Ahmadiyya et grâce à ses efforts, beaucoup de personnes se sont joints à la communauté Ahmadiyya. Il disait à plusieurs reprises qu'il désirait tomber en martyr. Ainsi donc, Dieu a exaucé son désir. Roni Parasani est décédé de la même façon. Il a été frappé à coups de bâton et de couteau. Et ainsi, on a profané son cadavre et on a défiguré son visage. Voilà ces personnes à qui Dieu a donné les bonnes nouvelles du paradis, des personnes qui vont vivre éternellement, des personnes qui sont des étoiles brillantes dans le ciel de l'Ahmadiyya. Qu'Allah exalte leur statut. Qu'Allah accorde patience et persévérance à leurs proches, qu'ils soient leurs protecteurs. Qu'Allah renforce la foi des Ahmadis de la Jamaat de l'Indonésie. Le Messie premier l'Islam avait vu une vision après le martyr de Sahibzada Abdul Latif Shahid Saheb. Il avait vu des personnes qui allaient suivre ses pas. Et dans ces contrées éloignées, il y a ces personnes qui ont suivi ses pas. Beaucoup d'entre ces personnes n'ont pas vu le calife en personne. Ils ont fait preuve d'une foi exemplaire. Leur fidélité envers le califat est exemplaire. J'ai mentionné auparavant la vision du Messie promis alayhi salam. Le Messie premier l'Islam déclare ce sujet qu'il avait vu dans cette vision qu'une branche large et verte de son jardin était coupée et on a dit qu'on doit planter cette branche dans la terre afin qu'elle pousse. Le Messie premier l'Islam a déclaré que cela signifie qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont suivre l'exemple de Sahibzada Abdul Latif Shahid. Ces martyrs ont atteint leur statut. Ils sont des exemples et se sont présentés à leur Seigneur. Ils se trouvent à des milliers de kilomètres de Qadian. Et même étant éloignés de Qadian, ils ont prouvé la véridicité de la vision du Messie promis à l'Islam. Et ils nous ont aussi laissé des exemples pour nous qui sommes restés en arrière, à savoir que nous devons tout le temps examiner notre foi. Après chaque martyr, nous devons prêter allégeance que nous n'allons pas détruire notre foi et que, au contraire, nous allons progresser davantage dans notre foi. Inch'Allah. Et que nous n'allons pas accomplir des actions qui pourront ternir nos traditions, des actions qui pourront affecter notre fidélité envers notre patrie. Comme je l'ai dit, les Ahmadis indonésiens sont toujours fidèles envers leur pays. La Jamaat Ahmadiyya a joué un rôle pour l'indépendance de ce pays. Tous les Ahmadis, là où ils habitent, doivent être fidèles envers leur patrie. Et Inch'Allah, ils seront fidèles envers leur pays. La fidélité exige que l'on prie que Dieu libère ces pays des tyrans et de ne pas nous imposer des dirigeants impitoyables. Nous allons user de la loi, mais nous n'allons pas prendre la loi entre nos mains. Certainement, nous allons nous prosterner devant notre Seigneur. Nous ne plaçons pas de confiance dans ces lois de ce bas monde. Au contraire, nous plaçons toute notre confiance en Dieu. Nous plaçons notre confiance dans nos prières. Nous plaçons notre confiance dans sa miséricorde. Et aujourd'hui aussi, comme dans le passé, nous allons nous prosterner devant Dieu. Nous allons prier « Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin » Qu'Allah fasse qu'aucun d'entre nous ne s'égare, qu'aucun d'entre nous ne trébuche. Le Messie premier al-Islam a évoqué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il déclare que le saint prophète Mohammed a enseigné la patience à ses compagnons. En fin de compte, tous ses ennemis ont été détruits. Ce jour est proche quand vous n'allez pas voir ces malfaiteurs. Dieu a décrété que cette jamaat va se répandre dans le monde. Il déclare que si Dieu le désire, ces personnes ne vous auraient pas tourmenté. Ils n'auraient pas donné naissance à ces personnes qui vous tourmentent. Mais par leur entremise, Dieu veut vous enseigner la patience et la persévérance. Il déclare aussi que celui qui vous tourmente va soit se repentir ou soit elle sera détruite. Parmi les personnes qui nous tourmentent, certaines vont se réformer. Certains vont se repentir, d'autres seront complètement détruits. Donc, vous devez prier afin d'atteindre votre objectif. Voilà comment doit agir tout Ahmadi. Qu'Allah nous donne la force d'être patient et qu'il détruise ces malfaiteurs. Que nous puissions voir l'accomplissement des promesses faites par Dieu au Messie premier, l'Islam, que Dieu nous accorde sa protection et qu'il attrape l'ennemi. Nous n'avons pas d'animosité personnelle à leur rencontre. Tout cela est un résultat de leur animosité à l'égard du Messie premier, l'Islam. Et partout, cette animosité est en train d'atteindre son comble. Qu'Allah fasse de ces personnes des signes de sa colère. et qu'Allah attrape rapidement ceux qui ne sont pas destinés à se réformer. Priez aussi pour les blessés, qu'Allah leur accorde une guérison rapide. Trois personnes sont toujours à l'hôpital, deux blessés sont sortis de l'hôpital. Je m'adresse aux Ahmadis indonésiens et je leur dis que les Ahmadis du monde entier sont en train de prier pour vous. Je reçois beaucoup de lettres dans lesquelles les gens disent qu'ils sont soucieux à votre égard. Ces images atroces qu'on a vues sur différents sites web ont créé un grand désarroi dans les cœurs des Ahmadis. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de prier pour vous. Qu'Allah accorde sa protection à tous les Ahmadis et qu'il protège tous les Ahmadis de tout mal à l'avenir et qu'il retourne contre l'ennemi ses plans. Je vais diriger la prière funéraire de ces martyrs, mais je dois mentionner un autre martyr qui est tombé à Mardan hier. Il faisait partie d'un régiment de l'armée. Il était en train de suivre un entraînement lorsqu'il a eu une attaque suicide. Un jeune Ahmadi, Munir Ahmad, était présent parmi ses soldats. En tout cas, il est tombé en martyr et on va prier aussi pour lui. Qu'Allah lui accorde son pardon. Il était le neveu de deux missionnaires Ahmadis. Il avait 21 ans. Qu'Allah accorde patience et persévérance à ses parents. Amen.